Marc Duguin, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Transparence chez Gallimard et vous aussi, vous avez l'habitude de commenter ce qu'ont fait les présidents. Vous avez notamment consacré de nombreuses pages à Kennedy. La prestation hier du chef de l'État, que vous inspire-t-elle, Marc Duguin ?
Elle m'a inspiré ce que je craignais, c'est-à-dire que sur le sujet le plus important et le plus préoccupant, c'est-à-dire l'écologie, rien. C'est-à-dire pas quasiment rien. C'est-à-dire, on va faire un,
je crois qu'il y a le conseil de défense écologique.
Oui, un conseil de défense écologique, des citoyens tirés au sort.
Enfin, 150.
Quand on voit la l'importance de la menace et l'avenir de la planète jusqu'à quel point il est en question, j'ai trouvé que c'était vraiment, c'est vraiment très insuffisant. Et ça révèle chez lui une absence de pensée, en fait, sur la question. C'est-à-dire le fait d'avoir eu Nicolas Hulot comme ministre de la Transition écologique, finalement, n'a absolument rien changé. Et je ne sens pas de détermination de ce côté-là, alors que aujourd'hui, c'est vraiment la question de long terme. C'est la vraie question. Donc déception. Après, il y a des petites mesures qui sont sympathiques, comme la suppression de l'ENA. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, faut voir.
Alors,
pourquoi ça va être
suppression de l'ENA, ça a été modulé en fait.
Modulé. Enfin bon. S'il y arrive, en tout cas, s'il va jusqu'au bout, c'est intéressant. Bon, parce qu'il y avait des mesures sympathiques pour les enfants sur les classes scolaires. Mais pas de grand tremblement. C'est clair.
Qu'est-ce qui vous inspire en tant que romancier, Emmanuel Macron?
Très honnêtement, il m'inspire pas grand-chose, parce que je trouve que je crois que la façon dont il est arrivé au pouvoir correspond à une époque, et je crois que la communication l'a énormément aidé, mais qu'ensuite tous les problèmes qu'il a rencontrés, c'est lié au décalage entre cette communication et la réalité. Je pense qu'il a été pris à son propre piège.
Y a-t-il d'autres présidents, je ne parle pas de Kennedy, on va y revenir, Marc Duguin, y a-t-il d'autres présidents en France, par exemple, qui vous inspiraient plus, je ne sais pas moi, François Hollande, Nicolas Sarkozy?
Non, celui qui était vraiment romanesque, si on veut parler d'un président romanesque, c'est Mitterrand. Parce que Mitterrand, venant de la droite, vichiste, un moment ensuite résistant. Bon, je sais pas très bien ce qu'il a fait sous la résistance, mais en tout cas,
il a fait.
Voilà. Là, il y avait un vrai personnage. Non, il n'y a pas vraiment de personnage romanesque.
Et puis alors, il y a quelque chose d'intéressant dans votre bibliographie, Marc Duguin. Et vous êtes intéressé, je l'ai dit, au meurtre de Kennedy, et vous avez échafaudé une hypothèse qu'on qualifierait aujourd'hui, alors non pas de complotiste, parce que le complotisme c'est une vision de l'univers sous forme de complot, mais vous pensez qu'il y a pu y avoir un complot, et de fait dans l'histoire il y a des complots. Est-ce que du coup ce discours qui est hostile au complotisme aujourd'hui, vous y adhérez? Est-ce que vous l'observez avec une certaine distance?
Oui, c'est vrai que plusieurs fois on m'a traité de complotiste, et je crois que quand vous remettez en question une vérité qui a été assénée, très vite on vous suspecte de complotisme. Or, s'il n'y avait pas un minimum de complotisme, je pense que, en tout cas au niveau des journalistes, ce serait très très rare de faire la vérité sur les choses. Donc il y a effectivement des gens pour qui c'est une véritable pathologie, le complotisme. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y a toujours derrière des intérêts, un complot. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je crois simplement que la vérité telle qu'elle nous est livrée par ceux qui font l'histoire mérite d'être mise en question et mérite d'être reconsidérée. Et si c'est une forme de complotisme, eh bien, il faut l'assumer.
Et puis alors, en tout cas là, je ne parle plus de complot, mais s'il fallait parler d'inquiétude, de votre inquiétude, Marc Duguin, et cela fait quelque temps que le numérique, cette nouvelle civilisation, cette nouvelle société, je ne sais pas trop comment l'appeler, et vous inspire de l'inquiétude. Vous aviez publié un essai, L'homme nu, la dictature invisible du numérique, en compagnie de Christophe Labbé, et aujourd'hui, vous publiez un roman avec des thèmes communs, en tout cas du point de vue de l'inquiétude que cette société nouvelle vous inspire, ce roman Transparence. Pourquoi y a-t-il, selon vous, péril en la demeure ?
Non, il y a péril, c'est-à-dire que aujourd'hui on est en pleine révolution numérique et ça sera de pire en pire. Et moi j'ai le sentiment justement que les politiques n'ont pas du tout conscience des changements que ça va apporter, sachant qu'on commence à en voir les résultats. Je vais prendre un exemple qui est aujourd'hui d'actualité, c'est le Brexit. Le Brexit, aujourd'hui, on a un peuple anglais qui a voté la sortie de l'Union européenne, sachant que le vote a été très très influencé par Facebook. Donc on a aujourd'hui des gens qui se rendent compte qu'ils n'ont pas vraiment envie de sortir de l'Union européenne, mais qui en même temps ont voté la sortie de l'Union européenne parce qu'ils ont été influencés par un certain nombre de messages sur Facebook qui disaient « si vous sortez de l'Union européenne, vous aurez plus d'hôpitaux, vous aurez... » voilà. Et cette falsification, on la vit en permanence. C'est-à-dire que l'information est constamment sous l'effet du numérique. Et ça peut conduire à des désastres.
Et vous utilisez donc ces promesses technologiques pour en faire un roman, Transparence. C'est la transposition de l'homme nu sous une forme romancée?
Non, parce que en fait, quand j'ai fait l'homme nu, c'était un essai. J'ai fait avec Christophe Labbé et un essai, ça demande évidemment beaucoup de rigueur, beaucoup de. On est plus dans une démarche un peu scientifique. Moi, je suis romancier et comme cette thématique me plaît beaucoup, j'avais envie de la reprendre sous une forme d'anticipation et de perspective. Sachant qu'aujourd'hui, il y a, on est face à une double échéance. La première, c'est l'échéance climatique, avec un risque de disparition de notre espèce, qu'on ne peut pas ignorer. Et de l'autre côté, on est dans un système de développement du numérique qui conduit à collecter énormément de données et à laisser penser certains grands acteurs du numérique qu'à un moment ou un autre, on pourra parvenir à l'immortalité. Et c'est la conjonction de ces deux phénomènes que je trouve très intéressante et que j'ai voulu développer dans ce roman, sachant que ce qu'on appelle le transhumanisme aujourd'hui est à la base d'efforts considérables qui sont faits par les grands du numérique, en particulier par Google. Et je trouve très intéressant qu'au moment où l'humanité est menacée de disparaître du fait de ses propres turpitudes, le numérique est à fond dans l'idée qu'on puisse devenir ce qui n'était pas du tout prévu dans notre nature, c'est-à-dire immortel. Et je trouvais que sur le plan romanesque, il y avait vraiment quelque chose à explorer qui n'a pas été fait jusqu'ici.
Alors, si l'on devait résumer votre roman Transparence, Marc Duguin, on pourrait dire qu'à la fin des années 2060, la présidente française de Transparence, une société du numérique implantée en terre sauvage d'Islande, est accusée par la police locale d'avoir orchestré son propre assassinat. Or, au même moment, son entreprise s'apprête à commercialiser le programme Endless, un projet révolutionnaire sur l'immortalité qui consiste à transplanter l'âme humaine dans une enveloppe corporelle artificielle. Et alors que la planète est gravement menacée par le réchauffement climatique, cette petite start-up qui est sur le point de prendre le contrôle du secteur numérique pourra-t-elle sauver l'humanité? On retrouve donc le thème du transhumanisme, le thème du clonage et... la catastrophe climatique en toile de fond avec une intrigue qui consiste à essayer d'associer ces différents éléments. Pourquoi avoir voulu explorer la question du transhumanisme ?
Parce que c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les grands du numérique, et pas seulement eux, travaillent sur l'allongement de la vie humaine avec l'espoir de l'immortalité. Parce qu'aujourd'hui, l'échec de l'être humain, c'est quand même la mort. Et en même temps, si la nature avait voulu faire de nous des êtres immortels, elle l'aurait fait. Bon, donc on se trouve aujourd'hui, en particulier dans les grandes sociétés du numérique, dans une effervescence intellectuelle et de recherche sur l'idée d'allonger la durée de vie et jusqu'où. Alors il y a différentes façons. Évidemment, on peut allonger la durée de vie tel que nous sommes, C'est-à-dire dire au lieu de vivre, voilà, avec une espérance de vie de 80, 85 ans, on va vivre 120 ans, 130 ans. Mais il y a quand même un terme. C'est-à-dire que notre constitution, elle est par essence limitée. Alors d'autres, et c'est un peu la vision transhumaniste de Google, c'est de dire de toute façon l'être humain est imparfait et c'est par l'intelligence artificielle qu'on arrivera à faire un être parfait. Et là on est quasiment dans la robotique, c'est-à-dire que l'être humain devient effectivement ce consommateur, producteur, consommateur parfait que beaucoup espèrent et qui n'est pas encore. Et moi, j'ai imaginé une troisième solution, qui est qu'avec la collecte des données qui est engagée aujourd'hui et qui va ne faire que s'accroître dans les années qui viennent, on sera capable de reconstituer un individu sur le plan intellectuel et sur le plan émotionnel. Et donc, ça peut ouvrir la porte, mais évidemment, c'est de l'anticipation.
Alors, c'est de l'anticipation, mais c'est 2060. C'est une période qui n'est pas si éloignée de nous que cela. Et alors, par exemple, votre personnage central qui dirige la société Transparence dit la chose suivante pour expliquer pourquoi il a nommé sa société Transparence. Je lis un passage de Transparence, Marc Duguin. Elle permettait, cette société, préalablement à toute union, d'obtenir une foule d'informations sur son futur partenaire, touchant aussi bien à sa psychologie, à son profil génétique et à sa sexualité, il en ressortait une multitude de courbes, de graphiques, de prévisions sur l'évolution sociale et mentale de la cible, accompagnée d'une synthèse très précise qui évaluait la probabilité que ce profil s'accorde avec celui du demandeur. Dans 91% des cas, nos clients suivaient nos recommandations de poursuivre ou pas dans leur relation. Autrement dit, c'est une vision extrêmement froide, on ne peut même pas imaginer d'ailleurs, plus froide de la rencontre amoureuse. C'est une manière assez radicale de tuer tout romantisme dans l'existence humaine et au-delà, une vision très noire de la relation des individus entre eux, Marc Duguin.
Ça, c'est l'idée qui est sous-jacente au numérique, c'est d'éliminer le hasard. Le hasard est l'ennemi du numérique. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans la relation amoureuse, vous vous en remettez au hasard, c'est-à-dire la rencontre possible ou pas avec quelqu'un dans la rue qui, possiblement ou pas, sera la bonne personne sur une durée donnée. Et ça, ce schéma-là, numérique, ça n'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est de vous dire, et je suis d'ailleurs étonné qu'il n'y ait pas déjà des sociétés comme ça, même s'il y a un peu l'idée avec tous les sites de rencontre.
Des algorithmes,
déjà,
ça existe.
Ça commence. Et donc, c'est l'idée de trouver la personne idéale. Et là, à ce moment-là, c'est pas la peine de se déplacer parce que, de toute façon, les gens communiquent de plus en plus entre eux, mais en même temps se parlent de moins en moins entre eux. Parce qu'ils sont toujours ailleurs avec le téléphone portable. Avec le téléphone portable, vous n'êtes jamais avec les gens qui sont là, vous êtes ailleurs. Vous êtes avec les personnes éloignées. Et donc, cette révolution, ce serait de dire aux gens la rencontre avec risque zéro. C'est-à-dire, on va vous trouver la bonne personne au bon endroit qui présente les qualités psychologiques, les qualités morales, les qualités qui vont faire que votre union sera une union véritablement de long terme. Et évidemment, c'est assez navrant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est intéressant d'explorer ça parce que on voit bien qu'aujourd'hui, le numérique va dans cette direction.
Oui, et puis alors, le terme de transparence, il est employé dans toute sa polysémie, parce que alors, vous dites par exemple que l'exhibitionnisme de civilisation, je vous cite Marc Duguin, a favorisé la transparence totale de l'individu par la disparition progressive de la vie privée, de l'intériorité au profit d'une fluidité des rapports sociaux dont le mensonge, la dissimulation ont été progressivement exclus au profit de l'expression et de la représentation permanente. Ce qui veut dire que finalement, la vie amoureuse, le misérable tas de secrets, comme disait Malraux, bref, tout ce qui fait normalement la chair d'un roman, c'est normalement ce qui doit favoriser votre imagination, Marc Duguin, est en quelque sorte banni par cette société numérique.
Oui, c'est assez, c'est assez inquiétant, parce que déjà... On est sous contrôle. Alors on veut pas l'admettre. On dit oui, mais c'est le problème du numérique, c'est que il y a énormément d'avantages avec le numérique. S'il n'y avait pas d'avantages, il y aurait pas ces inconvénients. Le problème, c'est qu'on nous parle des avantages, mais on nous parle pas des inconvénients. C'est-à-dire de cette société de surveillance absolue dans laquelle on est entré. Moi, j'ai vu un truc le week-end dernier, par exemple, que je n'imaginais pas, c'est-à-dire une discussion sur une marque en famille, téléphone ouvert. Chacun avait son téléphone ouvert à côté. Et on a eu une discussion sur une marque à propos de... Voilà. Et 5 minutes après, les téléphones recevaient une pub de cette marque en disant « Vous pouvez aller à tel endroit, etc. » Ça veut dire que... Probablement, enfin, j'ai pas de preuves, mais probablement, ça, on va au-delà aujourd'hui de ce qu'on pensait, c'est-à-dire qu'on écoute carrément les conversations. C'est pas des gens qui sont derrière, c'est des systèmes, c'est des algorithmes, et c'est extrêmement inquiétant parce que si on regarde le fonctionnement du numérique, tout est organisé uniquement pour vendre. Vendre, toujours vendre plus. C'est-à-dire l'idée que l'individu est un consommateur, un producteur-consommateur, et que finalement tout le reste ne les intéresse pas. Le libre arbitre ne les intéresse pas. Quand on dit le numérique a favorisé la connaissance, oui, ça favorise la connaissance. Mais en même temps, il faut avoir les outils de la connaissance. Il faut être capable d'aller chercher. Moi, je cherchais un endroit l'autre jour, quelque chose de très précis en matière de psychiatrie. Il a fallu que j'aille à la page 45 sur Google pour trouver la thèse d'un professeur québécois sur le sujet. Avant, c'était des sites qui sont liés à la pub, qui me donnaient des infos complètement superficielles, sans intérêt. Donc en fait, le système numérique, c'est avant tout vendre. Voilà, c'est d'ailleurs 75% du chiffre d'affaires de Google Alphabet, c'est de la pub. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir que ces gens-là n'ont qu'une idée sous-jacente qui n'a rien à voir avec la culture, qui n'a rien à voir avec la connaissance, qui est juste de nous vendre et de nous vendre toujours plus.
Bon, mais est-ce qu'il y a au moins, parce que je pourrais citer tous les défauts qui sont attribués au numérique dans votre roman Transparence, Marc Duguin.
Oui, il y en a quelques-uns.
Oui. Oui, quelques-uns, comme vous dites. Mais alors, oui, parce que alors, par exemple, l'avenir de la société du livre, dans ce livre, est décrit comme étant assez noir. C'est un avenir en quelque sorte limité. Est-ce qu'il y a au moins des vertus à ce numérique pour vous?
Mais il y en a forcément. Sur un sujet, par exemple, oui, c'est vrai que je suis assez content que moi j'ai 4 enfants, je suis assez contente de pouvoir communiquer avec eux, de pouvoir les appeler, de pouvoir savoir s'ils vont bien, ce qui n'était pas le cas il y a je sais plus maintenant, il y a 30 ans, il y a 40 ans, enfin, il n'y a pas si longtemps. Voilà, on avait un téléphone fixe à la maison, on attendait, on avait des nouvelles, on n'avait pas de nouvelles. Il y a plein d'avantages. La question des avantages, moi je ne remets pas en question les avantages du numérique. Ce que je remets en question, c'est cette forme d'idéologie sous-jacente et cette espèce d'hypocrisie fondamentale qui est de dire, regardez les avantages du numérique, regardez, vous avez un téléphone, temps réel, vous pouvez envoyer des mails, etc. Bon, très bien, même si c'est assez aliénant, il faut bien le dire. Il y a quand même une aliénation de la communication aujourd'hui qui est assez forte. Mais ces avantages, ils sont là. Ce que le numérique nous cache, et là on revient à votre question sur le complotisme, et ça je pense que c'est sciemment, parce que de toute façon ça ne les intéresse pas de nous informer là-dessus, c'est toutes les conséquences en termes de surveillance, en termes de vie privée, et en termes évidemment d'évolution, c'est-à-dire c'est dramatique parce que le numérique nous donne un sentiment de toute puissance, on sait tout sur tout, on a une opinion sur tout. Moi, j'ai des copains médecins qui me disent maintenant, quand les gens rentrent dans mon cabinet, ils me disent, je viens vous voir parce que j'ai telle maladie. Et comment vous savez que vous avez telle maladie? Parce que j'ai vu sur Internet. Et là, on rentre quand même dans des schémas assez délirants.
Pourquoi justement avoir fait un roman d'anticipation, puisque la situation étant ce qu'elle est, vous l'avez décrite, Marc Duguin, et il y a aujourd'hui un poids du numérique important dans nos vies, pourquoi vouloir situer l'action en 2060? Alors c'est vrai que le clonage, car il en est notamment question dans votre roman, n'est pas encore véritablement le quotidien des êtres humains, à ma connaissance en tout cas, mais cette volonté de faire un roman d'anticipation.
Parce que je trouve très intéressant, le roman a plein d'utilités, heureusement d'ailleurs, il n'a pas qu'une seule, mais il y a une vertu, c'est je crois dans la tradition des grands textes, je me compare pas à ces grands textes, hein, mais de 84 d'Orwell, qui s'est probablement trompé sur beaucoup de choses, puisqu'on n'est jamais arrivé à la société d'Orwell, même si on dit aujourd'hui c'est Big Mother. D'une certaine façon, oui, mais c'est pas la société qu'avait imaginé Orwell. Et moi, je crois aux vertus dans le roman, dans la capacité d'alerter ceux qui vous lisent sur l'évolution probable d'une société. Et ça vient, c'est tout à fait compatible avec l'imaginaire. C'est-à-dire que l'imaginaire, finalement, est assez hypothético-déductif. C'est-à-dire que c'est une façon de dire, bien sûr, le roman que je fais, Transparence, il n'y a aucune certitude que tout se passe comme ça. Simplement, il y a pour moi une grande probabilité. C'est-à-dire, il y a de fortes chances qu'on aille dans cette direction. Et c'est bien que, en s'adressant à ce cerveau, à cette partie du cerveau qui n'est pas le cortex cérébral, mais le cerveau émotionnel qu'on essaye de toucher dans le roman, c'est bien qu'on aille montrer à ses lecteurs que l'évolution peut nous amener à des choses qui, à mon avis, ils n'attendent pas vraiment.
Si votre premier roman d'anticipation, c'était compliqué à écrire?
Oui, c'est peut-être le dernier d'ailleurs, parce que je vais revenir maintenant, j'ai des projets.
Il n'y a que vous qui pouvez le dire, parce qu'on n'a pas l'algorithme de Marc Duguin.
Non, mais c'est oui, en même temps c'est une célébration, parce que le roman se passe en 2068, et moi je suis très attaché à la période de 1968, enfin en tout cas tout ce qui était autour, je parle pas de 68, mais en tout cas de cette période de la contre-culture.
La fin des années 60.
De la fin des années 60, où, pour la première fois, on s'est posé la question de où nous menait cette société de consommation. Maintenant, on le sait où elle nous mène. À cette époque-là, on s'est posé la question. Aujourd'hui, on sait où elle nous mène. Elle nous mène probablement vers une catastrophe écologique.
Et puis alors, c'est une héroïne. Vous êtes glissé dans la peau d'une femme. Ça aussi, est-ce que c'était compliqué de le faire? Est-ce que c'était une volonté de se décentrer, Marc Duguin?
Oui, ça, j'en avais envie. J'avais envie parce que j'ai jamais eu de héros féminins qui tiennent le fil d'une de mes histoires, et j'avais envie de me mettre à la place d'une femme. Je trouve que c'est très, très, très intéressant. En plus, c'est une femme qui a des qualités intellectuelles évidemment incontestables, et en même temps qui vient aussi de ce monde numérique, donc qui a des ambiguïtés, et je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un personnage plein, c'est un personnage rempli, et c'est un personnage qui est très éminemment moderne.
Vous dites que le roman a des utilités, Marc Duguin, mais alors justement, est-ce que cette prise de conscience auquel vous souhaitez amener le lecteur peut rendre la situation que nous vivons réversible sur le plan technologologique, sur le plan du réchauffement climatique? Est-ce qu'on peut faire machine arrière, selon vous?
Je pense toujours, vous savez, la question, si vous voulez, la question de l'optimisme est une question éminemment complexe. Moi, je ne fais pas partie des optimistes. Je pense qu'on est... que c'est très 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 mal parti, que aujourd'hui tout s'accélère, et que je ne vois pas vraiment, à moins de changer, si vous voulez, aujourd'hui la vraie question, c'est que notre société est essentiellement matérialiste. Tout tourne autour de l'objet. Et s'il n'y a pas de transition spirituelle, je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de religion particulièrement, même si c'est une des clés de la spiritualité, mais certainement pas la seule. S'il n'y a pas de transition spirituelle, il n'y aura pas de transition climatique, et on n'a aucune chance, à mon avis, de s'en sortir. Et certainement pas par la technologie. Parce que tous les optimistes pensent que c'est la technologie qui va nous sortir de la crise climatique, et je ne le pense pas. C'est un changement profond de mentalité qui nous amènera à s'en sortir.
Une bonne raison de lire Transparence sur papier, c'est votre dernier roman, Marc Duguin. Il est publié aux éditions Gallimard, et nous conseillons à nos auditeurs sa lecture.